Chapitre 14. Impatient et furieux, Achille arpente la grève au pied d'Olympos, face à 1000 de ses plus valeureux myrmidons, et, en attendant de tuer le champion que les dieux lui auront envoyé ce jour-là, il se remémore le premier mois de la guerre, une période que Troyens et Argiens ont baptisée la colère d'Achille. Les dieux s'étaient écus en masse depuis les hauteurs de l'Olympe, sûrs de leur champ de force et de leur machine sanguinaire, prêts à passer en temps ralenti pour échapper à la vindicte des mortels, ignorant que les morts avec, ce petit peuple industrieux, ces nouveaux alliés d'Achille, disposaient de formules et d'enchantements pour contrer les leurs. Arès, Hadès et Hermès arrivèrent les premiers, surgissant au sein des rangs troyens et achéens pendant que le ciel explosait. Les lignes de force suivirent les flammes, jusqu'à ce qu'Olympos et l'armée mortelle se transforment en un amas de dômes, de flèches et de vagues de flammes chatoyantes. La mer se mit à bouillir. Les petits hommes verts coururent vers leur felouque. L'égide de Zeus frémit et devint visible à mesure qu'elle absorbait l'assaut énergétique des morts avec. Achille n'avait Dieu que pour Arès et ses acolytes fraîchement débarqués. Hadès, les yeux rouges sous son armure de bronze noir, et Hermès, les yeux noirs sous son armure rouge d'insecte.
« Que l'on dispense la mort à ces mortels !»
hurla Arès. Le dieu de la guerre, qui mesurait 12 pieds de haut, dirigea vers les rangs argiens sa chatoyante majesté. Hadès et Hermès couraient sur ses talons. Tous trois levèrent une javeline qui ne manquerait pas d'atteindre sa cible. Sauf que chacune rata la sienne. Achille n'était pas destiné à mourir ce jour-là, et jamais il ne mourrait des mains d'un immortel. La première lance effleura le puissant bras droit du tueur d'hommes aux pieds rapides sans même l'égratigner. La deuxième se planta dans son superbe bouclier, mais la couche d'or polarisée forgée par un dieu en bloqua la pointe. La troisième rebondit sur son casque doré sans même y laisser une éraflure. Les trois dieux levèrent la main pour lancer sur lui des décharges énergétiques. Grâce au nanochamp intégré à son organisme, il les dispersa en s'ébrouant, comme l'aurait fait un chien mouillé. Arès et Achille se fracassèrent l'un contre l'autre, ainsi que deux montagnes. Sous l'effet du choc, des centaines de Grecs, de Troyens et de dieux en perdirent l'équilibre, se retrouvant à terre alors que la bataille commençait à peine. Arès fut le premier à se ressaisir. Levant haut son épée écarlate, il l'abaissa afin de décapiter proprement ce parvenu de mortel. Esquivant le coup, Achille planta son épée dans le corps du dieu de la guerre, taillant dans son armure divine et dans ses tripes, jusqu'à ce qu'un ichor doré inonde le mortel comme l'immortel, jusqu'à ce que les divins boyaux du dieu de la guerre dégorgent leur contenu sur le sol martien. Trop surpris pour s'effondrer, trop outré pour mourir, Arès fixa ses entrailles qui se dévidaient sur le sol en tremblotant. S'étirant au maximum, Achille agrippa Arès par son casque et l'obligea à descendre à sa hauteur, projetant des postillons humains sur ses traits parfaits.
« Coûte donc à la mort, idole sans tripe !»
Puis, avec l'enthousiasme d'un boucher attaquant une longue journée, il lui trancha les mains au niveau des poignets, puis les jambes à celui des genoux et enfin les bras. Sous les yeux horrifiés des autres dieux, la tête d'Arès, nimbée d'un nuage de mouchetures noires, continua de hurler bien après qu'Achille l'eut tranché. Hermès, qui était aussi ambidextre qu'il était redoutable, leva sa seconde javeline. Achille bondit alors avec une telle vivacité que tous crurent qu'il s'était téléporté. Empoignant la lance du dieu, il voulut la lui arracher des mains. Hermès lui résista. Hadès tenta de le frapper au genou, mais le tueur d'hommes bondit dans les airs, esquivant la lame d'acier noir. Comprenant que jamais il n'aurait le dessus, Hermès lâcha sa javeline et décida de se técu en lieu sûr. Mais les morts avec avaient activé leur champ. Personne ne se téléporterait avant la fin du combat. Hermès dégaina son épée, dont la lame incurvée était des plus redoutables. Achille trancha le bras du tueur de géants au niveau du coude, et glaive et avant-bras tombèrent sur le riche sol écarlate de Mars.
« Pitié !»
s'écria Hermès qui tomba à genoux et saignit la taille d'Achille de son bras subsistant.
« Pitié ! Je t'en supplie !»«
Pas de pitié !»
Et Achille débita le dieu en petits morceaux dorés et frémissants. Hadès se mit à reculer, ses yeux rouges emplis de terreur. Les dieux tombaient par centaines dans le piège tendu par les humains, attaqués de toutes parts par Hector et ses Troyens, par Achille et ses Myrmidons, par tous les héros grecs, et les champs de force morts avec les empêchaient de se técu. Pour la première fois de mémoire de combattant, dieux et héros, demi-dieux et mortels, Panthéon et Piétaille s'affrontaient d'égal à égal, ou presque. Hadès passa en temps ralenti. Le monde cessa de tourner. L'air s'épaissit. L'écume des vagues se figea sur la grève rocheuse. Les oiseaux s'immobilisèrent en plein vol. Hadès, haletant, s'autorisa un haut-le-cœur. Il était hors de portée des mortels. Achille le rejoignit dans le temps ralenti.
« C'est impossible !»
dit le seigneur des morts dans l'air poisseux comme du sirop.
« Meurs, toi qui es la mort !»
hurla Achille, et il planta la lance de son père Pélée dans la gorge du dieu, juste au-dessous des mentonnières noires qui protégeaient les pommettes squelettiques d'Hadès. Licor doré jaillit au ralenti. Écartant le bouclier ouvragé d'Hadès, Achille enfonça son épée dans le ventre et l'échine du dieu de la mort. Quoique mourant, ce dernier lui asséna un coup qui aurait fendu en deux une montagne. Mais la lame noire glissa sur le torse d'Achille comme si elle ne l'avait même pas touché. Achille n'était pas destiné à mourir ce jour-là, et jamais il ne mourrait des mains d'un immortel. Hadès, lui, allait bel et bien périr, même si ce ne devait être que provisoirement, au sens où l'entendrait un humain. Il tomba de tout son poids, enveloppé dans un tourbillon de noirceur, comme s'il était happé par un cyclone d'onyx. Manipulant sans effort conscient une nanotechnologie sophistiquée, semant le désordre dans des champs de probabilité quantique déjà bien éprouvés, Achille émergea du temps ralenti pour rejoindre le champ de bataille. Zeus avait déserté celui-ci. Les autres dieux s'égayaient, pris de panique, en oubliant de lever l'égide derrière eux. Grâce à la magie Moravec dont on l'avait investi ce matin même, Achille pénétra les champs énergétiques les moins puissants, pourchassant les dieux jusqu'au pied d'Olympos. Ce fut là que le massacre commença pour de bon. Mais tout cela s'est produit au premier temps de la guerre. Aujourd'hui, le lendemain des funérailles de Paris, aucun dieu ne se présente pour l'affronter. Comme son allié Hector est absent et que les soldats des forces troyennes, placés sous le commandement d'Énée, se tiennent tranquilles dans leur secteur, Achille décide de préparer une prochaine offensive contre Olympos avec ses capitaines achéens et les artilleurs Moravec. Le plan d'attaque est des plus simples. Pendant que les armes nucléaires et énergétiques des Moravec activeront l'égide sur les contreforts, Achille et 500 de ses meilleurs hommes prendront place à bord de 30 frelons pour forcer une autre partie du champ énergétique située à milieu d'ici, de l'autre côté d'Olympos, foncer vers le sommet et porter le fer dans les demeures des dieux. Si des Achéens venaient à être blessés ou à perdre courage une fois dans la citadelle de Zeus, les frelons les évacueraient une fois éventé l'élément de surprise. Achille a l'intention de rester au sommet de l'Olympe, jusqu'à ce qu'il soit transformé en charnier, jusqu'à ce que palais et temple blanc soient réduits à l'état de ruines calcinées. Après tout, se dit-il, Héraclès n'a-t-il pas jadis abattu à lui seul les remparts d'Ilium, conquérant la cité sans l'aide de quiconque? Pourquoi les halls d'Olympos seraient-ils sacro-saints? Depuis le lever du jour, Achille s'attend à voir débarquer une armée conduite par Agamemnon et son crétin de frère Ménélas, bien décidé à reprendre le contrôle des forces achéennes afin de relancer le conflit précédent, celui qui opposait les mortels aux mortels, prêt à s'aplatir devant ces dieux traîtres et couards. Mais l'ex-commandant en chef aux yeux de chien et au cœur de cerf ne s'est pas montré. Achille a résolu de le tuer dès qu'il ferait mine de se révolter. Lui et son frère Rouquin, ainsi que toute personne disposée à se ranger du côté des Atrides. Cette histoire de cité vidée de leurs habitants n'est qu'une ruse d'Agamemnon pour inciter ces lâches d'Achéens à la rébellion. Ainsi donc, lorsque le centurion en chef Mepaou, le roquevêque barbelé responsable de l'artillerie et des bombardements énergétiques, cessent de s'intéresser à la carte qu'ils examinent à l'abri d'une toile de soie pour annoncer que sa vision binoculaire vient de repérer une étrange armée en provenance d'Ilium via le trou, Achille n'est nullement surpris. La surprise vient quelques minutes plus tard lorsqu'Odysseus, celui d'entre eux qui est doué des yeux les plus perçants, précise
« Ce sont des femmes de Troie. Des Amazones, tu veux dire ?»
demande Achille en sortant au soleil d'Olympos. Une heure plus tôt, Antiloque, fils de Nestor et frère d'armes d'Achille, est venu en char pour leur annoncer la venue de 13 Amazones, dont la reine, Penthésilée, a fait serment de tuer Achille en combat singulier. Le tueur d'hommes aux pieds rapides a souri de toutes ses dents en apprenant la nouvelle. Lui, qui a combattu et terrassé 10 000 Troyens et des vingtaines de dieux, ne va pas se laisser impressionner par un serment de femme. Odysseus fait nom de la tête.
Ces femmes sont environ 200, toutes équipées d'armures trop grandes pour elles, fils de Pélée. Rien à voir avec des Amazones. Elles sont trop grasses, trop courtaudes, trop vieilles. J'en vois même qui paraissent éclopées.
À chaque jour qui passe,
grommelle l'ombrageux Diomède, fils de Tidée et roi d'Argos.
Nous sombrons un peu plus dans la folie.
Théoucros, demi-frère d'Ajax le Grand et archer sans pareil, demande
« Veux-tu que j'alerte les sentinelles, noble Achille? Que je leur demande d'intercepter ces femmes dont la présence en ce lieu ne peut être inspirée que par la démence et de les renvoyer à leur métier à tisser ?»«
Non, » répond Achille.
« Allons à leur rencontre. Voyons ce qui amène ici ces femmes, les premières à s'aventurer dans le trou, à Olympos et dans le camp achéen. »«
Peut-être cherchent-elles aînés et leurs époux troyens, qui se trouvent à plusieurs lieues d'ici ?»
suggère Ajax le Grand, fils de Télamon et chef des Salaminiens, qui ce matin-là sont stationnés sur le flanc gauche des Myrmidons.
Peut-être.
Achille semble amusé et un peu irrité, mais pas convaincu pour autant. Il s'avance sous le soleil olympien, moins brillant que celui de Troie, à la tête d'une compagnie de rois, de capitaines, de subalternes et d'hommes de troupe. Il s'agit bien d'une meute de femmes venues de Troie. Alors qu'elles ne sont plus qu'à un demi-stade, Achille fait halte, imité par la cinquantaine de héros qui le suit, et attend que cette mauvaise troupe arrive à son niveau. Le tueur d'hommes aux pieds rapides pense à un troupeau d'oies cactantes.
« Vois-tu des nobles parmi elles ?»
demande-t-il à Odysseus, tandis que la horde franchit bruyamment les quelques dizaines de pieds de sol rouge qui les séparent.
« Des épouses ou des filles de héros ? Andromaque, Hélène ou Cassandre aux yeux fous ? Ou encore Médésicaste ou la vénérable Castianire ?»
« Non, » répond en hâte Odysseus. « Je ne vois aucune femme de valeur, ni par la naissance ni par le mariage. Je ne reconnais que la dénommée Hippodamie, cette grande vache là-bas, avec la javeline et le long bouclier semblable à celui que porte Ajax le Grand, qui m'a jadis rendu visite à Ithaque en compagnie de son époux, un grand voyageur troyen du nom de Tisiphonos. Pénélope lui a fait visiter nos jardins, et elle m'a confié par la suite que cette femme était aussi amère qu'une grenade trop tôt cueillie. Et que la beauté ne lui procurait aucun plaisir. »
Achille, qui distingue nettement les nouvelles venues, enchaîne.
« Elle-même n'a rien d'une beauté. Philoctète, avance-toi vers elle. Ordonne-leur de faire halte et demande-leur ce qu'elles font ici sur le champ de bataille où nous affrontons les dieux.
« Pourquoi moi, fils de Pélée ?»
gémit le vieil archer.
« Vu l'accusation qu'on a lancée contre moi hier lors des funérailles de Paris, il me semble que je devrais... »
Achille se tourne vers lui et le fait taire d'un regard.
« Je t'accompagne pour te tenir la main, »
gronde Ajax le Grand.
« Théucros, viens avec nous. Deux maîtres archers, un maître lancier. Voilà qui devrait pouvoir tenir cette volaille, même si les choses tournent mal. »
Les trois hommes se détachent du contingent d'Achille. Ensuite, tout va très vite. Philoctète, Théucros et Ajax s'arrêtent à 20 pas des femmes en armure de fortune, en formation désordonnée et visiblement à bout de souffle. Et l'ancien commandant des Thessaliens et ancien naufragé s'avance vers elle, serrant dans sa main gauche le légendaire arc d'Héraclès et levant la droite en signe de paix. L'une des femmes les plus jeunes, qui se tient à droite d'Hippodamie, lance sa javeline. Aussi incroyable que cela paraisse, elle atteint Philoctète en pleine poitrine. Philoctète, qui a survécu 10 ans à une morsure venimeuse et à la colère des dieux, juste au-dessus de son armure légère et le traverse de part en part, tranchant son épine dorsale et le tuant sur le coup.
« Tuez cette salope !»
hurle Achille furibond, qui tire son épée du fourreau alors même qu'il se met à courir. Théoucros, qui essuie un feu erratique de flèches et de javelines, n'a pas besoin de ce genre d'encouragement. Plus rapide que l'éclair, il encoche une flèche, bande son arc et une tige de 2 coudées traverse la gorge de la femme qui vient d'oxyre Philoctète. Hippodamie et une trentaine de femmes encerclent alors Ajax le Grand, cherchant maladroitement à le frapper avec les longues lances et les épées massives de leurs époux, de leur père ou de leur fils. Ajax, fils de Télamon, se tourne un instant vers Achille, lui adressant ainsi qu'à ses compagnons un regard apparemment amusé, puis il dégaine sa longue épée, désarme Hippodamie sans paraître trop se fatiguer et lui coupe la tête, aussi à l'aise que s'il fauchait les mauvaises herbes dans son jardin. Les autres femmes, saisies par la démence, se ruent sur les deux hommes. Théoucros décoche flèche sur flèche dans leurs yeux, leurs cuisses, leurs seins ballottants et, au bout d'un temps, dans leur dos. Ajax le Grand achève celles qui sont assez stupides pour s'attarder, ravageant leurs rangs tel un géant moissonnant des petits-enfants, ne laissant que des cadavres sur son sillage. Lorsqu'Achille, Odysseus, Diomède, Nestor, Chromios, Ajax le Petit, Antiloque et les autres arrivent sur les lieux, c'est pour y trouver une quarantaine de femmes mortes ou mourantes, dont certaines poussent leur ultime râle sur le sol rouge gorgé de sang, les autres fuyant à toutes jambes en direction du trou.
« Au nom d'Hadès, qu'est-ce que ça signifie ?»
halète Odysseus. Arrivé au niveau d'Ajax le Grand, il doit contourner les corps gisants autour de lui, des corps dont la posture, gracieuse ou non, ne lui est que trop familière. Tous ont péri de mort violente. Le fils de Télamon a un large sourire. Le sang des femmes de Troie constelle son visage et macule son armure et son épée.
« Il m'est déjà arrivé de tuer des femmes, » dit le géant mortel, « mais que les dieux m'en soient témoins, jamais avec autant de plaisir !»
Calchas, fils de Thestor, le plus pénétrant de leurs devins, sort alors des rangs achéens.
« Ceci n'est pas bon. Ceci n'est pas bon du tout.
Silence !»
fait Achille. Il porte une main à son front pour se tourner en direction du trou où les dernières femmes en armure viennent de disparaître, pour être remplacées par des silhouettes plus massives.
« Quoi encore ?»
maugrait le fils de Pélée et de la déesse Thétis.
« On dirait des centaures. Chiron, mon mentor et ami, serait-il venu nous prêter main forte ?»«
Ce ne sont pas des centaures, »
dit Odysseus au regard perçant et à l'esprit vif.
« Ce sont d'autres femmes, à cheval. »«
Tu veux dire qu'elles les montent ?»
demande le vieux Nestor en plissant les yeux.
« Elles ne mènent pas des chars !»
Non, elles les chevauchent ainsi que les légendaires cavaliers des temps anciens,
dit Diomède qui peut à présent les distinguer. Personne ne monte plus à cheval en cette époque moderne, où on préfère conduire des chars. Cependant, quelques mois plus tôt, avant la trêve, Odysseus et Diomède ont dû monter à cru des chevaux troyens pour fuir un campement où ils s'étaient introduits en pleine nuit.
Les Amazones, dit Achille.